Bonjour et bienvenue dans On va taper dedans, le podcast où on décrypte les épisodes de Top Chef saison 12 en toute décontraction. Je suis aujourd'hui en compagnie de Ludovic. Bonjour Ludovic.
Bonjour Florian, comment ça va?
Ça va très bien et toi?
Eh bien ça va très 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 bien, le soleil arrive, le déconfinement arrive, on est en place.
On est en place. Aujourd'hui épisode 12, alors là on est dans ce que j'appelle la dernière ligne droite finalement de Top Chef. Il y a toujours un avant et un après Garde des Restos où là les choses deviennent plus sérieuses, l'ambiance a tendance à devenir un petit peu plus tendue parfois entre les candidats. En tout cas l'aspect compétition de l'émission se fait de plus en plus sentir. Et donc qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode 12?
Alors c'est un épisode 12, je pense qu'il commence à construire la fin de Top Chef avec ses finalistes potentiels. Je pense que là, on est très très proche d'avoir les finalistes potentiels, déjà parce qu'ils sont 5.
Voilà, et alors on peut le rappeler, il s'agit de Bruno, Mathias, Mohamed, Sarah et Pierre. Donc quand même, dans les 5, il y a quand même deux survivants, enfin deux revenants
qui ont
été éliminés, ce qui est assez... assez impressionnant quand même.
Je sais pas si c'est, rare parce que il me semble qu'il y a une année, un revenant a été en finale, mais je peux me tromper.
Ah, et d'ailleurs, j'ai un doute. Est-ce qu'il y avait deux revenants dans les revenants? On est parti dans un vocabulaire.
Pierre et Bruno ont été éliminés.
Oui.
Et sont revenus.
Non mais ce que je veux dire, dans les saisons précédentes, est-ce que c'était moi il me semblait qu'il y en avait qu'un seul qui revenait.
Tout à fait. Oui, je crois que tu as raison et je crois qu'en général ils en ramènent qu'un.
Ouais, peut-être qu'ils ont voulu rebattre un peu plus les cartes.
Bah déjà, ils nous ont fait un Top Chef reboot il y a deux épisodes en remélangeant les équipes complètement.
Ouais,
donc l'animation était un peu différente. Là, de toute façon, chaque chef a un seul chef à s'occuper, donc le coaching il est presque dédié, quoi.
Mm-hmm.
Sauf Etchebest qui en a deux, mais il a un petit préféré, hein.
Okay.
On en parlera.
Assez clairement. Une structure d'épisode un peu classique. Moi j'ai beaucoup aimé cet épisode, merci de me l'avoir demandé. Passif agressif. C'était intéressant.
Mais je m'en fous de ton avis, tu le sais ça.
il y avait pas mal de rebondissements, il y avait des choses intéressantes, même culinairement parlant, il y avait des choses bien. J'ai aussi des gros points d'interrogation sur des grosses incompréhensions sur certains choix des candidats, et ça on reviendra là-dessus un peu plus tard. Donc structure classique, deux épreuves principales encadrées par des chefs, suivies d'une dernière chance. Donc première épreuve sous la supervision du chef Alexandre Mazia, donc un chef triplement étoilé en 2021, et d'ailleurs c'est le seul qui a été triplement étoilé en France.
En 2021, ouais.
Oui, en 2021, 2021. Oui. et ensuite une deuxième épreuve encadrée par Paul Perret, qui est donc le chef triplement étoilé qui fait partie des membres du jury, bien entendu, de cette saison et de la saison précédente. Donc première épreuve, un thème assez compliqué. Moi, je trouve que c'est vraiment, il nous sort vraiment des épreuves très très difficile quand tu compares aux saisons précédentes, où les thèmes c'était plutôt sur un type de produit, ou alors sur du trompe-l'œil, ou des trucs un peu, pas bateau, mais des trucs un peu classiques. Là, il y a vraiment on rentre dans des choses très très techniques. Donc cette épreuve sur le thème de la multiple cuisson d'une protéine, c'est moi j'ai trouvé ça vraiment très 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 compliqué. Je sais pas ce que toi t'en as pensé.
Ah oui, je pense qu'il faut se creuser la tête un petit peu. Enfin, là, c'est vraiment une épreuve de cuisinier pro, parce que concrètement, toi, quand tu es un cuisinier amateur, tu penses jamais à faire ce truc-là. En l'occurrence, oui, tu as raison. Quand on te dit fais tes déclinaisons de tomates ou de carottes, à la limite, tu peux imaginer des trucs. Mais là, clairement, c'est un truc de professionnel. À ne faire que chez soi. à ne pas faire chez soi, je veux dire. Et je trouvais ça intéressant, notamment par le chef qui était là. J'ai une petite anecdote sur le chef.
Ah.
Parce que si tu regardes bien, le chef, il était grand. Il fait 1m95. Et en général, quand on dit que t'es grand, c'est que tu as fait du basket. Moi, il se trouve que ce chef-là, il a fait du basket. Il a même été en équipe de France Espoir
Wow.
au début des années 2000. Il a joué, je pense qu'il était proche d'être semi-pro. Et c'était alors, je n'ai pas vu d'image de lui jouant au basket. Mais bon, quand tu es en équipe de France Espoir, je pense que tu as déjà un bon
T'as un
niveau,
bon niveau,
hein,
ouais.
vu le nombre de joueurs, notamment qui jouent à l'étranger en NBA en basket. Et l'autre petite anecdote, c'est que ce chef est né au Congo. Il est né à Pointe-Noire et il a passé les 15 premières années de sa vie à Pointe-Noire.
Alors, est-ce que concrètement ça fait de lui un Africain?
Est-ce que ça
Je
fait de
connais
lui?
pas trop
Alors,
la
ça,
législation à ce niveau-là.
c'est une grande question. Est-ce qu'il peut avoir la nationalité congolaise, tu veux dire? Ou...
Oui.
Moi, ce que je veux dire, moi, j'ai une opinion là-dessus, c'est tu es de là où tu es né. Et quand tu as passé les 15 premières années de ta vie au Congo, j'imagine que le lore de sa vie est plutôt congo-français que franco-congolais, si j'ai envie de te dire.
D'accord.
C'est-à-dire que quelqu'un qui a passé 15 années de sa vie au Congo, quand même. Alors après, il a passé 15 années de sa vie au Congo. En tant qu'Européen au Congo, c'est peut-être différent qu'en tant que natif congolais. Je ne sais pas.
Alors,
Mais
tu prends le
je
Japon par
pense que
exemple, au
le.
Japon, même si t'es né au Japon et que t'y as passé les 15 premières années de ta vie, si t'es pas comment dire, si tes parents ne sont pas japonais tous les deux, c'est pas évident que tu deviennes japonais un jour. Il y a
Ah,
des endroits où
oui,
c'est très strict.
tu parles de la partie. Moi, je parle de la partie sentimentale. Après,
Ah oui, voilà.
la partie ordinale, un petit peu. Ouais, non, je n'en sais rien, en fait. Je n'en sais rien. Je pense qu'il pourrait être congolais, s'il voulait, concrètement. Mais effectivement, il y a certains pays où c'est plus difficile de faire partie du pays. Mais bon, c'était pas mon point de vue, c'était pas mon opinion. Et ce que je voulais dire, c'est que du coup, là, il a un resto à Marseille, hein, il a un resto 3 étoiles à Marseille. Et il me semble qu'il a même un resto bistronomique qui s'appelle Pointe-Noire à Marseille, donc le nom de la ville où il est né.
Ah,
Et
d'accord.
évidemment, comme il est à Marseille, il fait énormément de poissons, donc on le voit dans son plat signature, qui est à la base de langoustine d'ailleurs.
Et qui avait l'air très très bon, et un peu comme d'habitude d'ailleurs pour les plats présentés par les chefs. En tout cas, on peut remercier d'avoir mis fin à sa carrière de basket. Alors, je sais pas s'il y a mis fin lui-même, je ne connais pas les détails, mais en tout cas, on aurait perdu un bel ambassadeur de la cuisine française ou franco-congolaise ou congo-française si ce n'avait pas été le cas. Alors, du coup, les candidats doivent tirer au sort leurs protéines. Donc, c'est des paniers hein, qui sont recouverts d'un torchon. Voilà. Mathias hérite de la volaille. Pierre il hérite des gambas. Bruno récolte le canard. Sarah récupère le bœuf. Et Mohamed doit s'occuper du cabillaud. Déjà, pour toi, est-ce qu'il y avait des produits plus simples que d'autres?
Bah déjà, moi je trouve ce système particulièrement injuste parce que du coup, tu peux pas juger, vu que les cuissons vont être forcément différentes, tu peux pas juger à égalité. Et en plus, le deuxième truc que je trouve injuste, c'est que comme Alexandre Mazia il est plutôt spécialisé dans le poisson, peut-être qu'il a plutôt il va plutôt envisager les plats de poisson avec une meilleure fortune qu'est les plats de viande.
Ah.
Du coup, je suis assez circonspect sur le fait de tirer au sort. Des protéines parce que ça peut désavantager surtout quelqu'un qui est jugé par un chef qui a un palais particulier et je pense qu'il y en a certains et notamment celui qui a gagné qui ont été un petit peu avantagés. Voilà. Donc, encore une fois, c'est pas un complot sur le fait qu'on l'a avantagé lui, mais je pense qu'il a été avantagé lui et je pense que Mohamed était bien placé aussi pour gagner cette épreuve.
Alors, du coup, on va parler un petit peu des différents plats et des étapes de leur élaboration. Donc, Bruno, lui, choisit de faire un magret sur coffre avec verveine, oignon et jus à la réglisse. Magret de canard, c'est un produit que j'aime bien. Je sais que ça fait pas forcément toujours l'unanimité, mais moi, j'adore ça. Est-ce que ça suffit? Enfin, moi, je sais que mon magret de canard, je le mange très très rosé. Et en fait, j'avais un peu peur avec ces multiples cuissons que ça qu'on devienne assez vite très sec. Et alors, il y a un truc que je voudrais dire sur cette épreuve, c'est que la quasi-totalité des candidats ont opté pour une petite ruse que j'ai trouvée assez maligne, c'est d'introduire la marinade dans
Oui, tout à
la
fait.
liste des cuissons. En termes de
Mais c'est
cuisson,
une
c'est psychologique.
cuisson.
Oui, c'est une cuisson. Alors,
Oui,
ça m'a
c'est une
toujours un
cuisson.
peu. J'ai toujours eu du mal à accepter ce fait. Parce que pour moi, la cuisson, il y a de la chaleur. Mais je sais que c'est une cuisson. On peut cuire par l'acide, on peut cuire par le vinaigre ou par le sel. Mais bon. Et du coup, ouais, c'est assez malin parce à la fois, effectivement, tu vas ramener un peu de. Tu vas nourrir ta viande, tu vas ramener un peu d'humidité. Ça va la protéger un peu pour les étapes de cuisson suivantes. Et puis, c'est un petit peu une cuisson gratuite. Dans le sens où voilà, elle va pas te faire prendre trop de risques et en plus c'est une occasion supplémentaire de ramener des arômes qui vont être identifiables et qui vont justifier en fait ce mode de cuisson. Donc c'était pas mal, mais justement Bruno c'est un peu l'exception parce que lui il a fait un pochage plutôt qu'une marinade et c'était aussi intéressant, c'était plutôt malin.
Ouais, bah du coup, ouais, parce que là, tu parles de Bruno, c'est l'exception qui confirme
Voilà.
presque la règle. C'est-à-dire que il a fait quelque chose en dehors des clous. Un pochage pour une volaille, je trouve que c'est une excellente idée. Moi, je pense qu'il prend pas trop de risques en plus parce que là où je peux aussi. Là où je pense qu'il y a des gens qui étaient désavantagés, c'est qu'il y avait des protéines qui étaient beaucoup plus risquées que d'autres. Et il y avait des protéines où tu pouvais pas forcément cuire. Donc tu avais les viandes où tu pouvais aller cuire plus que les que le que le que la viande. Et le canard, c'est un double effet qui se coule. C'est-à-dire que, comme la volaille d'ailleurs, j'ai envie de dire qu'on va parler de Mathias. C'est-à-dire que, en plus, le canard, tu peux vraiment aller cuire, tu peux vraiment saisir en fait. Tu peux y aller franchement. Et lui, il l'a fait. Hein. Il a fait rôtir. Il a fait, je crois, il l'a mis au
Barbecue aussi.
barbecue. Bon, et après, il a fait l'erreur fatale de le remettre à la poêle.
Mais pourquoi? Ça m'a
Pour
vraiment.
quelle raison? Ouais, parce que a priori, bon, si t'aimes le canard saignant, bon, moi, j'ai envie de te dire, le canard qu'il a fait, je le trouve un poil saignant, mais j'ai l'impression que les chefs le trouvaient trop pas assez saignant. Et après, c'est une question de palette chef, on va dire. Et je pense que la cuisson qu'il a faite, effectivement, ne convenait pas à ce chef-là en particulier. Mais par contre, la cuisson, visuellement, le fait qu'il arrivait à faire croûter la peau et à garder le reste saignant, je pense que la cuisson elle était très bien d'un ordre général, mais pour le chef Alexandre Mazia, ben c'était presque trop cuit, quoi.
Donc beaucoup d'aspects
Mais
partisans
après,
sur
il
cette
a.
épreuve, selon toi.
Bah, c'est-à-dire que c'est compliqué, parce que c'est compliqué quand t'as pas tous les mêmes protéines. Je veux dire, tu peux pas juger de la technique d'un chef. Tu peux juger que. Est-ce que tu peux juger que Bruno, il a mal cuit le magret s'il avait été jugé par un autre chef? Par contre, est-ce que tu peux juger que si tout le monde avait fait du canard, tout le monde l'aurait cuit de la même façon, et effectivement, Alexandre Mazia l'aurait jugé de la même façon? Oui. Et je pense que Bruno, il a fait un beau plat. Après, le fait qu'il l'ait pas cuit comme le voulait Alexandre Mazia, parce que tu sais très bien, enfin moi clairement, enfin il y a plusieurs sortes de cuisson au canard, donc concrètement, peut-être que pour certains il n'était pas assez cuit, peut-être que pour certains il était trop cuit. Moi, concrètement, là, tel que le canard que je le voyais visuellement, je pense qu'il manquait un peu de cuisson, à mon goût, tu vois. Donc déjà, si tout le monde a son avis sur la cuisson du canard, je trouve ça difficile de juger la cuisson du canard par rapport à des cuissons d'autres protéines.
Ah mais son
Donc
chef lui a quand
c'est
même
là
dit
où je.
qu'il était parfait son canard et c'était étrange après avoir entendu ça de le remettre un peu en cuisson
C'est
mais
là où c'était injuste. Bah, ouais, alors après, oui. Après, il a peut-être fait l'erreur de la remettre en cuisson, je suis d'accord avec toi. Mais je pense pas qu'en plus, je pense pas qu'il a cuit la peau juste pour la rendre croustillante, à mon avis. Juste pour qu'elle soit extra crispy quand elle arrive au moment du service. Voilà, je veux pas en vouloir à Bruno là-dessus. D'ailleurs, d'un ordre général, je pense que les 5 ils ont fait des super plats.
Ah non, mais
Donc,
là
du
en pinaille,
coup,
parce que c'est effectivement
ouais,
là, il y a c'est des vertueuses.
c'est là où je trouve ça injuste que chacun n'ait pas eu la même protéine. C'est-à-dire que comment tu veux juger à égalité la créativité de chacun quand tu as des difficultés qui sont différentes entre chacun suivant les protéines?
Bah, je suis d'accord avec toi, et c'est pour ça que je pense que c'est plus un choix de spectacle et de production pour éviter de lasser un peu lors de l'épreuve et d'avoir différents challenges et d'enrichir l'épreuve en elle-même, même si c'est au détriment de l'équité au niveau du jugement final.
Ouais, mais c'est dommage du coup parce que t'as une certaine forme d'injustice. Moi, encore une fois, moi je pense que Mohamed et Pierre ont été un peu avantagés sur cette épreuve.
On est suivi par Mathias qui. On est suivi par Mathias, il nous suit. Fais attention, regarde derrière toi.
Enfin, il te suit en particulier parce que bon, depuis ce que tout ce que tu dis depuis 10 épisodes, franchement.
Et donc, bah, il nous fait une volaille en trois cuissons, accompagnée de ce qu'il appelle le guacamole, donc à cheval entre
Ouais.
le guacamole et le kiwi, et verveine. C'était.
Non, pas verveine, il n'y a pas verveine en lui. Lui, il a volé en trois cuissons. Ah si, il y a verveine, pardon. Ah, ils sont tous là. Il y en a deux qui ont la verveine.
Eh
D'accord, ok. Ah
oui.
ouais, ah bah pardon. Oh, la verveine.
Et voilà,
Elle
tu crois que je ne sais pas lire. Eh ben.
est
Eh ben.
là.
Alors lui, donc, bah, comme tous les quatre autres qui ont fait une marinade, bah, il a fait une marinade à froid aux agrumes avec gingembre et oignon nouveau et la fameuse verveine fraîche. Un peu de sauce soja pour le sel, un peu de vin rouge, du jus de citron. Et ensuite, donc il cuit tout ça au barbecue. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il ramène un accessoire qu'on avait vu dans un épisode précédent, qui est le fer qui sert pour les crèmes brûlées, je crois.
Ouais.
Et il se dit, bah, je vais finir là-dessus, sur le glaçage pour fixer un peu le glaçage. Alors j'avais un peu peur que ça fasse un peu comme l'effet qu'il y avait eu. Et je sais plus qui avait utilisé ce fer. Mais ça avait moyennement marché sur la cuisson instantanée, tu te rappelles?
Oui, sur l'épisode avec le cuisinier espagnol, je crois.
Oui.
Mais effectivement, j'ai plus le nom de la personne qui avait
Et
utilisé ce
ça avait
fer.
marché moyen moyen. Et du coup là, c'était il y avait un petit doute, mais sur la technique, il s'en est plutôt bien sorti.
Ouais, alors après, globalement, je pense qu'il a pas pris beaucoup de risques, à part le syndrome de la pizza hawaïenne là, avec son guacamole là. Mais je suis toujours un peu circonspect par ces mélanges qui semblent originaux, mais bon, poulet kiwi, j'ai un peu de mal.
Mais surtout que je trouve que le kiwi dans la cuisine de manière générale, je trouve que ça a assez peu d'intérêt. C'est un avis personnel, mais je trouve pas que ça ramène beaucoup de goût. J'ai rarement été.
Ça a pas énorme, ça a pas énormément de goût à la base, déjà c'est un peu acide, mais à part ça, je. Mais voilà, donc c'était une idée. Je trouve pas, j'ai pas trouvé qu'il avait été super brillant sur cette épreuve,
Oui, il
Mathias,
voulait juste faire un jeu
personnellement.
de mots sur son accompagnement.
Ouais.
Guakiwi, ça sonne bien, on va mettre
Et
du kiwi.
puis même sur la cuisson de la volaille, finalement, il a pas pris énormément de risques, tu vois. Autant Bruno avec son pochage et surtout la cuisson sur coffre,
Oui.
surtout.
Oui, c'est vrai que
Il a été à fond
en cuisson sur
dans
coffre,
la
il pouvait pas
cuisson.
trop surveiller l'avancée de
Ouais.
la cuisson de son canard, donc c'était effectivement assez courageux.
Autant Mathias, il a été safe sur cette épreuve et ça a pas apporté ses fruits d'ailleurs.
Voilà, mais ça l'a pas non plus descendu en chef, parce que
Non,
en
non,
plus.
il a le plat était réussi, hein, mais j'ai envie de dire, je pense que ça s'est vu, que ça n'avait pas été une grande réussite, à part le. Bah, le problème, c'est que comme le focus, il est sur la protéine, la cuisson de la protéine en trois ou plus façons, tu peux pas centrer ton plat sur le guacamole, quoi. Ça n'a aucun sens.
C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, rien de très exceptionnel côté Mathias, mais bon, un joli plat quand même. Hein, je trouvais que ces pièces de viande étaient bien taillées, donc le
Alors, mais
dressage était beau.
honnêtement, la pièce de viande à la fin était très très jolie.
Ça donnait très envie. Mohamed, lui, qui nous fait un dos de cabillaud, saké, café, salsifis et jus corsé. Alors salsifis, je crois que j'en ai jamais goûté, mais c'est un mot que j'adore. Je sais pas pourquoi
Mais
ça
tu
me
sais que c'est
fascine.
un légume oublié, ça fait partie des légumes oubliés, donc on en
Dont on
parlait
parlait
la
tout à l'heure.
semaine dernière, je crois. Ouais. Mais concrètement, il a été. Moi, je suis de plus en plus surpris par Mohamed. Alors, il a des coups de génie, parfois c'est des semi-coups de génie. Mais là, le fait de. Le cuir, je crois qu'il a poché dans le café, ou je sais plus, il fait une sauce avec du café. Rappelle-moi.
Et c'était en fait il a fait ça en vapeur, en panier vapeur avec du café et du
Oui,
saké.
voilà, c'est ça. Exactement.
Et c'est vrai que
Mais
c'était
moi, je trouvais
intéressant.
ça très original, ouais. Parce qu'en plus, lui, pour le coup, au contraire des protéines viande, le poisson, tu peux pas le brusquer, en
Ah
fait.
ouais, faut
Tu
y
peux
aller mollo, ouais.
pas le foutre dans le feu et attendre, tu vois. Par exemple, le bœuf, tu peux le foutre dans le feu 1 minute. Et le retourner avec une viande épaisse, bon bah tu vas toujours avoir du saignant. Bah là le cabillaud c'est tendu,
Ah,
hein.
tu peux
En
vite
plus
flinguer ta cuisson.
ouais, en plus le truc devient friable au fur et à mesure où tu le cuis. Donc c'est compliqué en fait. Il y a vraiment des difficultés accrues, et du coup quand tu regardes ce qu'ont fait Mohamed et aussi Pierre, on en parlera plus tard, ils ont essayé de trouver des façons de cuire complètement douces,
Oui.
très très
Bah, parce
douces,
que c'était
et
les deux à
même
travailler
le...
des produits de la mer.
Ouais, et même je crois qu'il l'a passé à un moment donné au barbecue. Lui, il n'utilisait pas le barbecue classique, il utilisait le barbecue japonais.
Le Binshotan.
Voilà, comment tu dis? Comment ça s'appelle?
Le barbecue Binshotan.
Le Binchotan, ouais, parce que j'ai vu que Pierre il utilisait carrément
Les charbons Binshotan, ouais.
le charbon Binchotan, ouais. J'ai découvert ce que c'était à ce moment-là.
Et alors, j'ai bien compris que c'était le nom d'un charbon spécifique, mais est-ce que tu saurais ce qu'il a de particulier, ce charbon?
Ah non, 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 pas du tout. Je ne me suis pas du tout renseigné. J'ai appris l'existence de ce nom pendant l'émission.
Bah, ça avait l'air, ouais, c'est effectivement un beau travail de cuisson qu'il a fait dessus. C'était bien maîtrisé. Et puis l'idée de mettre un petit coup de chalumeau sur la fin, c'était pas mal. Parce que j'ai trouvé que ça apportait du relief et une belle texture à son cabillaud. Donc plutôt pas mal. Plutôt pas mal, et d'ailleurs ça a plutôt plu.
Ouais, je pense qu'il était dans les deux plats, parce qu'à la fin, Alexandre Mazia disait qu'il avait deux préférés.
Oui.
Je suppute qu'il était dans les deux.
Ah, et donc les deux produits de la merde, donc c'est complètement partisan.
Attends, mais là, c'est moi qui suppute, comme ils ont pas donné le deuxième, on ne peut pas te dire. Mais si demain je trouve dans un article qu'il a trouvé le deuxième, ça confirme mon opinion. Que les produits de la mer étaient avantagés parce que le palais de notre ami chef était plus préparé à ça.
Non mais on va lui écrire, on va lui dire que c'est inacceptable et puis on va lui demander
C'est un scandale.
des excuses publiques. Sarah.
J'ouvre une pétition tout de suite.
Allez, change.org, c'est parti. Donc Sarah qui nous fait un bœuf en quadruple cuisson avec des lactères, marmelade de kumquat, pickles d'oignons grelots. Je connaissais pas les oignons grelots,
Les
mais j'imagine que c'est
lactères,
des.
les champignons de l'année, lactères.
Ah ouais, là ils en sortent à toute gazon.
Je connaissais pas lactères, et puis là maintenant je ne connais que ça. J'ai l'impression qu'il n'y a que ça. Et pourtant j'en ai jamais vu
C'est pas le plus commun, ouais.
là où
J'en ai vu de temps en temps, mais
là où
c'est
je
pas le
vais
plus
acheter
commun.
champignons. Bon, clairement, elle n'avait pas la partie la plus facile, surtout que j'ai l'impression que Sarah, elle est adepte un petit peu du crudivorisme, où
Exactement, hein.
j'ai l'impression qu'elle mangeait beaucoup cru. Parce qu'au début, elle dit qu'elle ne prépare ce genre de viande qu'en tartare.
Oui.
Donc,
Donc elle était très
la cuisson du
circonspecte au début
bœuf.
de l'épreuve.
Ouais, alors c'était à la Sarah, quoi. C'est genre, oh, je suis très circonspecte. Et puis là, t'as Paul Perret qui arrive et dit: Ah, on commence pas comme ça, bon, t'as quoi? Puis là, elle commence à décrire le plat. Il dit: Bon, bah, ok, super. Bah, pourquoi tu dis que t'es très circonspect?
C'est vrai que ça commence à être un peu son schéma qui se dessine. Et du coup, elle nous fait une marinade à l'orange, citron, kumquat, origan et thym, qui devait être assez, du coup, assez relevé, assez agréable. Un fumage au foin et aux feuilles de châtaignier. Et enfin, elle fait griller au barbecue. Donc, je sais pas si c'était le Binchotan ou un barbecue classique.
Je crois que c'était le classique cette fois.
Ok.
Parce que le Binchotan, je suis pas sûr, ça agresse un peu la viande.
Ouais.
Le bœuf, faut quand même un peu l'agresser. Et là, je crois qu'elle l'a cuit en filet. Enfin, je crois qu'elle avait un filet de bœuf
Et
qu'elle l'a
qui était beau,
cuit.
hein.
Et ensuite,
Quand elle était en train de le parer, c'était assez joli à voir. C'était une
ah
image.
oui, là, bah, y a pas de souci. Là, ils sont bien équipés avec
Ouais.
les bons ingrédients.
Ils ont des bons fournisseurs. Hein.
Et là, pareil. Enfin, là, le bœuf, j'ai envie de dire, j'ai eu l'impression qu'elle avait la protéine la plus facile à cuire en X façon. D'ailleurs, elle en a fait 4 ou 5, me semble-t-il.
Oui,
Parce que
elle en a fait 5, je crois.
effectivement, bah, le bœuf, tu peux. Enfin, ça met un peu de temps à cuire, clairement. Alors après, il faut quand même que ça soit saignant. Enfin, en général, les chefs l'aiment saignant. Donc là, il était saignant, à cœur, en tout cas. Et là, je pense qu'elle était à la fois avantagée parce que plus que la volaille, parce que la volaille à cuire en plusieurs cuissons, notamment quand tu cuis sur le coffre, quand tu prends des risques, etc., c'est compliqué. Là, le bœuf, bah, finalement, t'as quand même pas mal de méthodes pour savoir si c'est bien cuit, pas cuit,
Oui,
tu sais, avec.
c'était peut-être la protéine la moins difficile, effectivement. Et donc, oui, non, erratum, hein, c'est non pas 5, mais 4, bien 4 cuissons qu'elle a proposées. Elle a fini avec un rôtissage au beurre. Alors, ça, c'est toujours, je crois que
Ouais.
dans mes kinks culinaires, il y a toujours cette phase où tu arroses
Non
ta viande dans
mais moi je
l'alcool.
regarde. Ouais, non mais moi je regarde ça, c'est un peu comme de l'ASMR pour moi, ça.
C'est
C'est
de l'ASMR visuel.
l'ASMR des yeux, ça.
Ouais. Non, c'est assez merveilleux, mais oui, enfin, si je faisais pareil à la maison, je pourrais enfin, en deux cuissons de viande, tu termines une plaquette de beurre, quoi. C'est pas possible,
Oui, mais bon, le beurre, c'est pas grave, hein, ça passe.
oui,
Ça va, c'est bon.
donc voilà, plutôt réussi, hein, le chef a plutôt bien
Plutôt
apprécié.
réussi, mais moi j'ai envie de dire pareil que Mathias. Est-ce qu'il y a une grosse prise de risque là-dedans? Est-ce qu'il n'y a
Non,
pas
mais
des choses originales?
elle était pas hyper inspirée par le truc, donc elle a fait quelque chose
Ouais, clairement,
qui
clairement,
était très
elle a fait au mieux.
c'est très bien ce qu'elle a fait, mais c'était pas je pense qu'il lui manquait l'élan, justement, de motivation et de plaisir dans l'épreuve pour aller plus loin. Et donc on finit par Pierre, qui lui hérite des gambas, et donc qui nous fait des gambas cuites sous terre avec une marinade citron sésame, snacké au binchotan, purée de daikon, je sais plus comment. En plus, on avait dit ça la semaine dernière, mais je ne me souviens plus.
Moi
Grué
j'aurais dit l'icône, mais
daikon
voilà.
et grué de cacao et shawanmushi de tête. Shawanmushi, je ne sais plus ce que c'est, mais c'était, j'imagine, une sorte de technique de
Bah, je crois qu'il prend
préparation.
la. Ouais, il prend la tête du gambas et puis là, tu peux le. Je crois qu'il l'a cuit d'une manière un peu particulière.
Au micro-ondes. Hop.
Au micro-ondes, oui. Non mais je sais pas. Mais en tout cas c'était là on a la photo devant nous du plat, mais en fait il y avait deux parties au plat. Il y avait la tête du gambas à sucer, puis ensuite le gambas.
Exact. Et d'ailleurs, il n'a pas donné les instructions de sucer la tête, mais visiblement le chef a eu le réflexe de le faire de lui-même, et ça jouait en la faveur de Pierre, on va dire. Alors du coup, lui, en première cuisson, lui, il fait partie de la team marinade, hein, qui est la team majoritaire. Il fait ça à l'huile de sésame torréfiée, enfin l'huile de sésame avec en plus du sésame torréfié, du vinaigre de riz, des algues shiso, gruyère de cacao, et ensuite il fait une cuisson à l'étouffée sous terre. J'ai trouvé ça assez audacieux parce qu'effectivement, les cuissons sous terre, j'ai vu ça que dans un peu tu vois, les fours polynésiens, quoi, des trucs assez massifs où tu as des grosses feuilles de bananier, tu mets des poissons entiers sur un petit produit comme la gambasse. J'étais très curieux de voir ce que ça allait donner. Et du coup, alors il remplace les feuilles de bananier par du papier sulfurisé. Et je crois qu'il garnit son papier sulfurisé avec quelque chose pour ajouter du goût. Et c'est un peu risqué parce que là, pareil, pour surveiller ta cuisson quand c'est sous terre.
Ouais.
Tu peux t'amuser.
Moi, je t'avoue, je suis très très circonspect par ce mode de cuisson. Parce que je crois qu'il avait déjà été tenté d'ailleurs par un des candidats lors de l'épreuve de la cuisson un petit peu innovante là. Et à l'époque, j'avais déjà parlé, bah, comme tu l'as dit, très utilisé dans la cuisine polynésienne, notamment
Ah
pour
mais
le
ça,
bouillabaisse,
je
si
rêve
tu
d'en
connais.
goûter hein, du poisson cuit en four polynésien, ça a l'air trop bon quand il
Mais
dit.
souvent, quand tu fais ce type de cuisson, c'est de la cuisson lente.
Oui, parce que mais tu fais un énorme feu, t'attends que ça braise bien, ensuite tu recouvres de terre, tu mets tes poissons dans les feuilles de bananier, tu remets de la terre par-dessus et t'attends. Effectivement, c'est de la cuisson lente, donc plutôt basse température, parce que la terre va faire un peu un rôle d'isolant et va diminuer un peu
C'est
l'apport de
ça.
chaleur.
Et la feuille de bananier a un rôle dans ce truc-là, parce qu'elle est elle a encore un peu humide. Enfin, il y a tout un tas de caractéristiques qui font que on choisisse la feuille de bananier. Là, je suis un peu circonspect par son mode. Enfin, j'ai l'impression, et là, ce n'est que mon avis de néophyte, hein. J'ai l'impression que autant la cuisson au bichotan était complètement justifiée. Autant la cuisson, parce qu'en plus, il faut bien comprendre qu'il a tout fait ça au dernier moment. C'est-à-dire que
Ah oui,
moi, tu vois
y a
bien
ce
dans
moment un peu
l'émission.
lunaire où on arrive à mi-épreuve et il fait bon, bah, j'ai fini, le reste je le fais en dernière minute. Et il était plus que décontracté. Généralement, dans Top Chef, quand tu vois ça, c'est fini pour le candidat, quoi.
Oui, en général, il va y avoir y a un problème, mais. Et du coup, c'est là où, tu vois, c'est là où tout ce que j'ai dit depuis le début s'enclenche dans la tête. C'est-à-dire que il a un mode de cuisson qui, pour moi, ne sert à rien, n'apporte rien. C'est-à-dire qu'en plus, il met sa gambasse dans du papier cellophane et
Sulfurisé, ouais, je crois.
sulfurisé, pardon. Du coup, je ne sais pas du tout ce que va faire le papier sulfurisé, ce qu'il va absorber, pas absorber, etc. C'est-à-dire qu'il. Enfin, est-ce que ça va apporter du goût de le mettre sous terre, puis mettre les bûches binchotan par-dessus? J'ai l'impression que ça n'apporte rien du tout. Enfin, de mon point de vue, je ne suis pas certain que ça fasse quelque chose, parce que d'expérience que j'ai vue, vécue, mangée, en général, toutes les cuissons qui sont faites sous terre, c'est de la cuisson lente. Ça dure des heures, des heures, des heures. Et là, j'ai l'impression qu'on parle de 15 minutes ou même 10 minutes, et même, j'ai pas l'impression qu'il laisse longtemps, quoi. Donc, j'ai l'impression que ça n'a aucune espèce d'intérêt, et à raison, parce que, de toute façon, sa gambasse, il peut pas la cuire longtemps, dans tous les cas. Il faut qu'elle soit luisante. Limite, si sa gambasse est mi-cuite, ça passe pareil. Donc, en fait, le seul intérêt de la deuxième cuisson, puisque la première cuisson, il me semble, c'est la marinade aussi. Et qui était intéressante d'ailleurs, sa marinade pour le coup. La deuxième cuisson me semble sans intérêt, et c'est la troisième cuisson qui est super intéressante. Mais si je dis ça, ça veut dire que concrètement, il a que deux cuissons intéressantes et pas trois. Et là, on en revient au fait qu'effectivement, il travaille du gambas. On l'a vu, Alexandre Mazzia travailler
La langoustine,
de
hein.
la langoustine. Je pense que Pierre a eu de la chance d'avoir la gambas. Voilà, c'est mon point
Ah,
de vue.
c'est le complot, le fameux complot gambas.
Non, c'est pas un complot, je pense. Enfin, dans le sens, je dis pas que tout ça a été décidé à
Oui,
l'avance
non,
par les francs-maçons.
mais.
Je dis juste que Pierre, il a eu de la chance d'avoir la gambasse. Voilà, c'est de mon point de vue, il a eu de la réussite d'avoir la gambasse, parce que la gambasse, il lui a suffi effectivement de deux bonnes cuissons très intéressantes pour faire le job.
Donc son talent, c'est d'avoir eu de
Et
la chance.
non
Et un
non
peu de
parce
talent.
que le non parce que le la marinade était intéressante, et le snackage au Binchotan
C'est ça
était
que c'était
intéressante.
joli cette phase-là, de voir directement la gamba sur le charbon.
Moi, ce que je dis, c'est que la deuxième cuisson était complètement
Accessoire.
superficielle et ne servait à rien, et que si on se dit ça, ça veut dire qu'en fait il a que deux cuissons. Voilà,
Et dans ce
c'est
cas, il
tout ce que je
respecte
dis.
pas le thème de l'épreuve.
Et ouais, voilà, mais on peut pas dire ça parce que personne ne sait, parce que personne ne sait exactement l'impact de sa deuxième cuisson. Mais moi, mon avis, c'est que l'impact de sa deuxième cuisson est au pire superficiel.
Ok. Bah écoute, c'est un argument qui s'entend. C'est possible. En tout cas, moi, j'étais content de voir Pierre se qualifier pour
Et Pierre,
le
qui est un
carré
habitué, hein, parce que déjà avec Arnaud Donquel, il s'était qualifié.
final.
Pour moi, ça devient vraiment une des forces de l'épisode, parce que en général, après, son problème, c'est la dernière chance. Quand il va en dernière chance, il se fait éjecter. Mais il fait pas beaucoup de dernières chances.
Voilà. Du coup ça compense pas mal. Du coup,
Ouais.
fin de l'épreuve, victoire de Pierre, qui se qualifie directement pour les quarts de finale. On passe à l'épreuve de Paul Perret, qui est sur le thème d'une de alors le thème c'était révolutionner la façon de déguster un plat, en cassant un peu les habitudes et les codes. On a vu quelques belles images, enfin en tout cas belle, fascinante image du restaurant de Paul Perret, où
Ouais.
je pense que tu finis pas l'entrée si t'es épileptique ou un truc comme
Mais
ça.
quand tu regardes l'image de Paul, effectivement, il faut être un petit peu. Il faut pas avoir de prédisposition.
Voilà. Ou ce restaurant qui est
Mais
à
au-delà de
Shanghai,
ça,
je rappelle, élu meilleur restaurant du
ça
monde.
reste. Ouais, et c'est un restaurant qui est à Shanghai, uniquement sur réservation, bon, un peu comme beaucoup de restaurants, mais du coup, dans un lieu que tu connais pas, parce qu'en général, ils te disent pas à l'avance où est le lieu. C'est un menu je crois, en 22 ou 24 plats, me semble-til. Et du coup, c'est une expérience plus qu'un restaurant. Je veux dire, on mange pas de cassoulet là-bas, quoi. Enfin,
Oui,
c'est
oui.
pas un resto où tu peux dis enfin le problème de ce genre de resto, c'est que c'est plus un spectacle qu'un restaurant,
Oui.
j'ai envie de te dire. Donc tu peux pas refaire le monde pendant
Ouais, tu peux
des
pas
heures dans ce
discuter avec tes
resto.
potes pendant que parce que t'as
Ouais,
un mec qui
voilà,
va
c'est
arriver, qui
ça,
va te
c'est
il va t'éclater un ballon à l'oreille droite et
T'as,
ensuite il va
non, mais
te
t'as juste le temps de dire: ah bah c'est super bon, bon pas
ouais.
suivant,
Et
poum,
là on te plonge
voilà,
les pieds dans le
c'est
saké et on te t'enduit de crème de ciboulette
j'adore, non, non.
Et voilà, on a les images. Voilà, toujours épreuve individuelle, hein, parce que là c'est fini, hein, les binômes à ce stade-là de la compétition. Et alors là, chose un peu inédite, chaque candidat sera épaulé par un chef, donc qu'on aura vu au cours de la saison. Et donc c'est quand même des grosses pointures, hein, qui les accompagnent. Mohamed, lui, il se fait accompagner par Pierre Gagnaire, ce qui n'est quand même
Ah
pas.
oui, le grand-père préféré de tous les cuisiniers.
Voilà.
Je l'adore, j'adore.
Ah bah oui, non, il est génial, mais j'ai des questions mais j'y reviendrai tout à l'heure. Mathias, lui, c'est avec Pascal Barbeau, donc qui vient
Qu'on
de.
avait vu à l'épreuve du riz,
Exact.
et que Chloé avait gagné d'ailleurs.
Très juste. Bruno avec Arnaud Donquel et Sarah
Donc.
avec Glenville.
Voilà, Glenville, qu'on avait vu lors de la reproduction du plat. Épreuve, je crois, qui avait été gagnée par l'équipe de Paul Perret, il me semble d'ailleurs,
Je
si je me
sais
souviens.
plus du tout. Oui, je crois. Non, j'en sais rien.
Et Arnaud Donquel, qu'on avait vu lors de l'épreuve des sauces, des deux sauces, qui devaient se conjuguer et qui avait été gagnée, encore une fois, par Pierre. Tiens, tiens, tiens. Et là, qui était avec, rappelle-moi,
Sur le
il
ah.
était avec Bruno, Bruno, non? Il était avec qui?
Arnaud
Non,
Donquel?
non, il était avec Arnaud Donquel, il était avec
Avec
qui?
Bruno.
Avec Bruno, ouais. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, je suis assez surpris en fait du casting. Enfin, non, je suis pas surpris du casting, mais je suis. L'histoire derrière ça, c'est que chaque chef choisissait, enfin chacun de ces chefs d'exception, parce qu'ils ont tous plus ou moins 2, 3 étoiles ou 54 restos, enfin voilà,
Ouais,
ils
ils
sont
sont pas associés à l'hippopotamus, quoi.
voilà, non mais ils sont tous plus capés que les chefs qui jugent pendant l'émission, j'ai l'impression, tu vois.
Ah oui, c'est.
Si je,
Bah,
sans faire offense aux 4 juges
Paul Perret quand même
qui
bien
sont dans le top chef,
capé.
mais oui, non, clairement, mais même peut-être Philippe Echebest, mais clairement, il y a pas, enfin, ils sont sur le même piédestal, quoi.
Oui.
Et même Pierre Gagnard, on peut dire, il est carrément au-dessus, quoi.
Oui.
Et l'histoire derrière ça, c'est que ces chefs ont choisi un candidat. Et alors, moi, je te pose la question, c'est est-ce que tu as trouvé ces choix de candidats logiques?
Non, alors, mais pas du tout. Alors notamment le choix de Pierre Gagnaire et notamment la façon dont il l'argumente. Oui, je l'ai vu faire une glace à l'azote liquide. Du coup, je me suis dit qu'il n'hésitait pas à explorer des nouveaux trucs, machin. J'ai trouvé ça un peu léger comme argument et je me demande si c'est vraiment les chefs qui ont choisi. Et là, on rentre dans l'instant complot ou si c'est des choix plus ou moins orientés.
Bah, moi, je vais te dire mon opinion, c'est que ces quatre chefs-là, de toute façon, devaient être là, notamment pour des raisons de santé publique, dans le sens où ils ont déjà, je pense que c'est des gens qui ont été testés, qui ont été retestés, qui viennent des quatre dernières émissions. Donc, je ne sais pas s'il y a une émission par semaine qui est tournée ou une émission tous les 3 jours, mais en tout cas, ce sont des chefs, qui, d'un point de vue sanitaire, étaient safe. Et donc ils pouvaient retourner dans la même émission. Donc en gros, je pense qu'ils ont choisi parmi les chefs qui pouvaient retourner dans la même émission. J'étais surpris par exemple de ne pas revoir un Gilles Goujon par exemple. Il aurait pu revenir aussi. Et d'ailleurs, je m'attendais à voir pour Mohamed un Gilles Goujon. Ça me semblait plus logique en fait. Et je pense que ces chefs-là étaient désignés pour cette épreuve et que ils se sont partagés les quatre candidats qui restaient en fait.
Ils ont fait plouf
Voilà. Peut-être
plouf.
pas plouf plouf,
Oui, non, mais
mais ils
ils
ont.
ont bien dû faire des compromis ou trouver. En fait, je pense
Ouais.
qu'ils ont dû se trouver des raisons pour lesquelles ils les avaient choisis à partir des qualités qu'ils avaient pu voir chez eux.
Exactement.
Mais excuse-moi, il est très aventurier parce qu'il a fait une glace à l'azote liquide.
Oui, non
Venant de Pierre
mais
Gagnaire,
je.
ça m'a surpris, tu vois.
Non, mais enfin, je ne sais pas. J'ai pas de. J'ai
Bon,
pas d'avis là-dessus.
quoi qu'il en soit,
Mais c'est toujours sympa de voir Pierre Gagnaire à l'écran, de toute
oui,
façon.
non, mais
Donc, ça me va très
on va
bien.
pas cracher sur une
Ça me va très bien.
occasion gratuite de voir
Voilà.
Pierre Gagnaire. Du coup, oui, c'est le genre d'épreuve que j'aime bien. Moi, j'aime bien les trucs un peu rigolos où faut faire des trucs où tu sors des sentiers battus, où tu dois te creuser la tête pour trouver des idées marrantes ou en tout cas intéressantes.
Et là surtout on est dans la créativité sans limite, donc là
Ah
ils ont aucune limite là. Ils peuvent aller partout. Et c'est ça qui était génial dans l'épreuve, c'est que au contraire de l'épreuve précédente où t'avais des bonus-malus à mon sens un peu cachés, là tu peux pas te cacher
Ah
quoi.
oui, là, chacun est sur un pied d'égalité. Et justement, quitte à commencer, on va commencer par Mohamed et Pierre Gagnaire. Le thème de Mohamed, ça t'a inspiré quoi exactement?
Je pensais qu'il n'y avait aucune chance de
Ah
gagner.
mais non, je me suis vraiment demandé, mais pourquoi, surtout quand tu arrives à ce moment-là du concours, tu nous fais un florilège de Haribo ou de bonbons. Enfin, j'ai trouvé ça assez étrange. Alors, l'univers de l'enfance, c'est une bonne idée, pourquoi pas? Mais aller sur vraiment les arômes artificiels, les choses très sucrées, j'ai trouvé
Ouais,
ça
non, non,
très
je pense
étrange
que
comme choix.
c'est.
Et en
Je
fait.
pense qu'à part sa meringue qui est un peu originale et qui avait un effet un peu bizarre, je pense que le thème qu'il a choisi n'était pas vraiment approprié. Je pense que les chefs ont plus des becs salés que sucrés, donc c'était super. En plus, c'était super risqué de partir sur du hyper sucré, parce que pas se mentir, voilà. Quand tu commences à partir sur des trucs d'enfance. Enfin, lui, il n'est pas parti genre sur les gâteaux chocolat, quoi. Tu vois, il est parti sur des bonbons à la. Des bonbons, du soda. Enfin, des trucs super sucrés, quoi. Ou à un moment donné, il parlait de bonbons piquants. Bon, moi, j'adore les bonbons piquants, hein. Il n'y a pas de sujet,
Mais
hein.
oui, mais tu
J'en
vas pas au
mange
resto pour
tout
manger
le
ça.
temps. Voilà. Et non, mais c'est super risqué. Et j'ai pensé. Alors, après, c'est. Créativité sans limite, j'ai pas de sujet. Je pense qu'il était dans son esprit, il était dans le thème, mais je pense que la réalisation, enfin en tout cas le résultat final, j'avais pas envie de le choisir.
Ah oui, non,
Déjà, rien que sur le thème, quoi.
c'est sûr, mais en plus, t'es accompagné de Pierre Gagnaire et tu te lances dans de la cuisine moléculaire de sucre et de bonbons. Enfin, Pierre Gagnaire, je pense pas que ce soit vraiment son champ de. Enfin, je pense qu'
Ouais, et
il y
le
avait des
pro...
choses beaucoup plus intéressantes à faire, surtout accompagné de Pierre Gagnaire, parce que là, je pense pas
En
qu'il
fait,
pouvait
je pense
l'aider.
qu'avec Pierre Gagnard, tu pouvais faire n'importe quoi, parce qu'il est tellement sympa qu'il n'y a pas
Oui.
de dire non, en fait. Le truc, c'est ça. C'est que je pense qu'en plus, il n'avait pas le bon chef. Je veux dire, quand tu regardes Glenville à côté, qui était, je crois, avec Sarah, me semble-t-il, bah, t'avais Glenville, il était Philippe Etchebestien, tu vois, il était directif à mort.
Ouais.
À mort. Un peu comme dans son épreuve,
Il était très
d'ailleurs.
présent.
Ouais, il était très présent, alors que Pierre Gagnard, il souriait, il était sympa,
Il
il
sortait les
aidait.
poubelles, là,
Ouais,
il faisait le
voilà.
commis.
C'est ça, mais il est trop sympa, Pierre Gagnard. Donc il
Ça
peut
l'a
pas te
desservi, ouais.
dire non. Enfin, il avait pas envie de le tracasser, quoi.
Alors
Voilà, quoi.
que
Il avait pas envie de le
concrètement,
bousculer.
il lui aurait dit ton idée, c'est de la merde, d'entrée de jeu, tu vois. Ça l'aurait peut-être fait réfléchir. Enfin, j'y vais un peu fort, mais il aurait.
Non, non, mais je suis d'accord avec
Je
toi,
pense qu'il y avait un
complètement
truc à
d'accord.
dire dès le début à la présentation du plat, genre non, ça va pas, parce que je vois pas dans quel monde ça aurait pu passer.
Non, non, je suis complètement en phase.
Mais voilà, alors mais du coup, ces trucs marchaient, hein, c'était joli, ça faisait des bulles, ça faisait de la fumée, ça faisait des plop-plop. Je pense que c'était une expérience amusante. Et en fait, moi, ça me plairait de goûter ces trucs parce que ça a l'air rigolo. Mais
Ouais, mais ça, c'est en
j'aime.
termes de goût, je
Voilà.
pense, c'est pas gégène,
Mais je
quoi.
rentre pas dans un resto pour manger ça. Et puis en plus, je pense que tu sors de ce truc-là, t'as faim, quoi. Je pense pas
Non, mais
qu'après.
bah après, je pense, tu vois, c'est la raison pour laquelle il y a 22 plats
Oui.
chez Paul Perret, c'est cette raison-là, tu vois. C'est parce que tu manges des tapas, quoi, hein,
Ouais.
clairement. Tu manges 22 tapas, hein, tu manges pas un plat roboratif, quoi.
Voilà.
Donc, que ça fasse partie d'une scénographie, etc. Mais même cette partie-là me semble faible, tu vois. Même dans. Si ça fait partie d'une scénographie avec 22 plats, même ça, est-ce que j'aurais envie d'y revenir, par exemple?
Alors.
Voilà, je ne suis pas certain.
Le seul truc qui, à mon sens, rattrape tout, c'est cette image de Philippe Etchebest avec une tétine dans la bouche.
Non, mais en plus, il a mangé la
Oui.
tétine, quoi.
Oui, c'est son réflexe de rugbyman
Ouais.
qui met sa tétine en protège-dents. J'ai trouvé ça très drôle et ça en dit long sur le personnage. Mais c'est. Non, il y a eu des images assez drôles. C'était amusant, mais c'était en aucun cas un candidat potentiel à la victoire. Donc très surpris de ses décisions. Mathias, lui, qui est accompagné par Pascal Barbeau, lui, alors lui, pour le coup, et je vais pas en faire des caisses parce que les chefs eux-mêmes en ont fait des caisses, mais c'est vrai que sa proposition est la plus, à mon sens, la plus percutante et la plus osée de tous les candidats, et la plus intéressante dans la
Non,
démarche.
mais. Alors, clairement, c'est la scénographie la plus intéressante. En plus, avec une histoire
Oui.
qui est logique. Après, le seul. J'ai envie de dire. Le seul bémol que je trouve à ça, c'est que c'est un plat. J'ai l'impression que c'est un plat de chef. Dans le sens où. En fait, c'est un plat de chef pour chef. C'est ça que je veux dire.
Ah oui.
Dans le sens où.
C'est une private joke du monde de la cuisine, quoi.
Ouais, j'aurais pas dit ça comme ça, mais dans le sens où les chefs ont des palais surdéveloppés, on l'a vu dans l'épisode précédent,
Oui.
où les perceptions sur les plats étaient complètement différentes entre les critiques, qui sont
Oui.
pourtant des gens qui mangent beaucoup, et les chefs. Et là, clairement, en jouant sur des saveurs surprononcées,
Donc apologie de l'excès, hein,
c'est.
je rappelle le nom
Ouais.
du plat.
Voilà, en jouant. En gros, c'est. Il prend quatre saveurs surprononcées et il arrive presque à l'umami à la fin. Et il mélange ces quatre saveurs pour arriver à un umami gustatif qui pose sur
Sur une
un
main,
petit
un dessin
gâteau.
de main. Et d'ailleurs, c'est un peu dommage
Ouais.
parce que du coup, il n'y avait rien sur le pouce. Et moi, ça m'a. J'étais focalisé là-dessus. Je me suis dit, mais pourquoi il n'y a rien sur le pouce? C'est dommage.
Parce que tu manges sur le pouce.
Ah. Bah non, mais.
Ah.
Alors, ok. Non, parce que voilà, t'as la tartelette dans la paume. Et d'ailleurs, l'idée de. C'est-à-dire qu'au début, tu as le dessin de la main avec les trucs, et en fait, il y a un transfert entre ton plat qui est total à ta main. C'est-à-dire que bah, toutes les sauces qu'il y a sur les doigts dessinées, bah, tu les mets sur tes doigts, et ensuite, tu mets le. En fait,
Ouais, bon
tu
après
donnes.
c'était un peu une cascade parce que normalement
Oui.
tu posais le truc sur ta paume. Bon,
Mais c'était.
ça à la limite
C'était
c'était un
inter.
peu de trop.
Moi, je trouvais ça marrant.
Mais
Je trouvais ça marrant.
non, mais le fait déjà de mettre les quatre doigts dans les trucs et de les lécher,
Ouais.
puis ensuite de manger la tartelette, non, mais ça c'est, y a pas de souci. Mais du coup moi ce que je dis c'est que le seul bémol de ça c'est que effectivement quand t'as des gens qui ont des palais super exercés ça passe. Mais imagine quelqu'un qui déteste le sucré ou qui déteste le salé.
Ouais.
Est-ce qu'il arrive à la tartelette? Je suis pas sûr. Donc dans
Ouais.
le cas d'un concours, ça marche. Et je pense que dans le cas d'une expérience à la Paul Perret, ça marche parce que tu peux pas partir au milieu du truc en disant non mais c'était pas comme au cinéma quand tu vois un film pourri, tu dis
Ben
le film est pourri, je me barre
là, t'as
quoi.
payé 500 balles ta place au resto. C'est pas
Ouais,
pour.
voilà.
Et
Donc t'es un peu forcé de rester quoi. Donc
on te balance une pelletée de sandou et du sucre pur.
Voilà, moi c'était juste une remarque qui effectivement n'a peut-être pas d'objet dans le sens où dans le côté scénario du repas ça fonctionne en fait. Et clairement c'est de loin la meilleure idée de toutes.
Oui, et d'ailleurs, donc je reviens dessus, mais les chefs ont été dithyrambiques là-dessus. Meilleur plat de la saison, meilleur plat de l'année. On le verra plus tard, Etchebest qui s'agenouille
Oui, alors ça
comme devant son roi. Oui.
c'est un peu du cinéma hein, parce que si c'était pas est-ce qu'il parce qu'il est bleu en plus donc s'il
Ouais.
n'était pas bleu est-ce qu'il serait agenouillé?
Ah,
C'est la grande question.
il aurait peut-être applaudi, je sais pas.
Par contre Paul Perret, s'il avait été violet, il aurait fait l'avion, c'est sûr.
C'est clair. Mais voilà, très 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 belle réalisation et apparemment c'était très très bon. Donc voilà, idée au top et réalisation maîtrisée. Donc bravo Mathias. Alors Bruno, lui, il est passé complètement à côté parce qu'en fait il a servi
Ah,
un
tu
truc.
trouves?
Bah je trouve oui.
Alors, je pense que la scénarisation était pas top.
Bah, le thème c'est vraiment de bouleverser la façon de déguster un plat.
Ouais, je suis
Lui, en fait,
d'accord.
il donne juste des instructions. Ça, tu le gobes, ça, tu le lèches, ça, tu le.
Bah, en fait, oui, c'est ça. Je pense que.
C'est un peu
En
léger,
fait,
quoi.
l'idée est un peu légère. En plus, je pense qu'effectivement, il avait un problème de cohérence. Et puis, ça a été un peu. Enfin, ça a été complètement d'ailleurs dit par son chef qui était. Rappelle-moi, c'était qui son chef
C'était
déjà?
Arnaud Donquel.
Arnaud Donquel. Et voilà, donc. Après, je pense que s'il avait travaillé un peu plus à la Mathias, ça aurait été. Ça aurait. Parce que, il faut voir, hein, son truc, c'est que ce qui est bien dans son plat, c'est que. Enfin, dans ses trois plats, c'est que t'avais une partie où les gens léchaient. Une partie où les gens gobaient et une partie où les gens avaient un shot. Donc il avait quelque chose,
Mais il
mais
est passé à
c'était
côté de
pas
la scéno.
complexe.
En fait, quand
Ouais.
tu voyais son plat, t'avais l'impression de voir un plat d'une autre épreuve où le thème, ça va être le
Non,
truc. Et tu
mais
choisis de le faire en
clairement,
trois façons.
le visuel était pas. Était nul. Enfin,
C'était
le
sur des
visuel
assiettes,
était
quoi.
nul et je pense que. Je suis pas aussi dur que toi, je pense qu'il y avait beaucoup plus de potentiel dans le plat de Bruno que dans celui de Mohamed.
Alors, je suis d'accord, mais ce que je dis, c'est qu'il est passé à côté de l'épreuve, dans le sens où l'épreuve, c'est révolutionner la façon de déguster un plat. Là, il a donné des instructions de dégustation, mais en soi, il y avait pas de, il y avait, l'assiette, c'était une assiette. Tu buvais dans un contenant, un genre de verre ou je sais pas quoi. Enfin, c'était, il y avait
Non,
pas.
mais clairement, Bruno, il a un problème de. Je pense qu'il a. Il est un peu comme Mohamed, même si Mohamed essaie de sortir de son. Ils sont très techniques, ces
Ouais,
garçons-là.
et du coup, ça amène à un
Très, très techniques.
surclassicisme.
Ouais, voilà, c'est ça. Et Mohamed, bah, ça le fait sortir un peu de la route. Mais Bruno, lui, il reste dans sa route. Et là, c'était pas une épreuve pour lui, quoi.
Ah oui. Mais je pense que c'était très bon, hein. C'est pas, encore une fois, c'est pas ça le problème. Et on finit sur Sarah, donc accompagnée de Glenn Vielle. Donc il y a l'instant un peu admiration où Sarah se gaufre la plus belle chute de la saison, je dois dire. mais c'est vrai que le personnage est charismatique et impressionnant. Glenville, hein, c'est quand même c'est quand même voilà, c'est une stature. Et donc elle
Oui, c'est un peu un proto Philippe Etchebest en fait. Hein.
un proto dans le sens où s'il évolue en Philippe Etchebest, il perd ses cheveux et on y est.
Ouais, bah, il a pas tant de cheveux que ça.
Bah...
Hein. Quand t'as un man bun déjà.
on fait un point à Mad Men ou pas? Non, on va pas le faire. Et je présente mes excuses aux porteurs de Mad Men qui nous écoutent, mais arrêtez ça, arrêtez ça. Elle nous fait un truc qui s'appelle Sous la feuille, et c'est assez sympa parce que c'est un peu bon, c'est une cagette de terre avec des feuilles mortes. Bon, t'as un peu l'impression tu
Oui,
vas manger de l'humus, mais voilà, pour le coup, il y a quelque chose au niveau de la dégustation qui est pas habituel. Alors, je sais pas si t'as le droit
alors,
d'avoir des couverts pour.
c'est une cagette dans une cagette, hein, donc tout ce
Oui.
qui se mangeait dans la cagette du dessus se mangeait en fait. Je suis pas sûr que les chefs l'aient vu complètement d'ailleurs cette partie-là,
Ouais, bah, le terreau
mais
était comestible.
ouais. Donc c'est assez intéressant. Moi j'étais assez surpris par le choix de la protéine en
Le
fait, ou
chevreuil.
par la présentation de la protéine du chevreuil, ouais.
Pourquoi?
Parce que, bah en fait, j'ai pas compris l'histoire de. Donc sous la feuille, donc clairement il y avait un truc sous la feuille, ok. Et sous la feuille, t'avais une boule verte.
Oui.
Et dans la boule verte, t'avais un tartare de chevreuil. Bon.
Oui, alors, oui, ça raconte pas d'histoire très claire. C'est plus les ingrédients eux-mêmes qui ramènent une histoire et une
Bah,
cohérence.
le visuel, il est clair. C'est-à-dire que t'as de la terre, t'as des escargots,
Oui, mais
voilà.
pourquoi la
Et dans
boule et
les.
pourquoi le...
Pourquoi le chevreuil dans la boule, en
Ouais.
tartare, j'ai pas compris. Mais à part ça, effectivement, visuellement, t'avais un truc qui se comprenait. Et voilà, après, je pense que là, pour le coup, le problème, je pense que le problème de ce plat, c'est cette boule de chevreuil. En fait, à la différence de Mathias qui est parti sur un truc complètement. Enfin, lui, c'était dans le thème de son plat, quoi. C'était apologique d'excès, donc on savait qu'il y aurait des trucs complètement extrêmes.
Oui.
Et là où j'étais un peu surpris, c'est ben, le choix du chevreuil. Tu vois, il y avait moyen peut-être de faire des tartares de légumes, j'en sais rien. Enfin, bref. Ça passait, hein, parce que je pense qu'elle a été dans les deux premiers, hein, elle
Oui,
a été
bah oui,
deuxième.
elle a été qualifiée lors de cette épreuve.
Et je pense qu'elle avait le meilleur compromis, expérience visuelle, plat, etc. Donc voilà. C'est vrai que bah, Mohamed, c'est vraiment limite. Et Bruno, c'était hors sujet, en tout cas au niveau du visuel. Bon, bah, Sarah, elle a été. La meilleure des moins bien, quoi.
Voilà, c'est intéressant comme façon de présenter les jeux. Mais voilà, en tout cas, elle s'en sort bien. Bah, c'est bien évidemment
Non, mais après, je suis surpris, tu vois. Bah, quand on parle de créativité sans limite, c'est dommage de ne pas avoir eu Baptiste dans cette épreuve.
Il aurait récidivé.
Ou Arnaud, je n'ose imaginer Arnaud. Mais clairement, tu vois, Mathias, c'est là où je pense qu'il a une longueur d'avance. C'est-à-dire que même si c'est pas le technicien le plus fabuleux ou qui nous fait des choix un peu bizarres des fois avec son kiwi, bon bah il a une très bonne créativité. Et un peu en dessous, je dirais, t'as Sarah qui est très très bonne sur les trucs un peu végétal, etc. Qui est là, quoi.
Ah non, c'est vrai, mais non, enfin, il tire très bien son épingle du jeu, et je pense que c'est des qualités qui peuvent le pousser en finale, probablement. Hein, c'est fort
Bon,
probable. Bon.
moi je vois Pierre Sara et Mathias, hein. Je pense qu'ils sont
Ah,
kiff-kiff, hein,
tu penses à un
tu vois.
décrochage de. Alors. Bon, là, on s'avance un petit peu.
Ouais, on va
On va
passer à la
passer à la
dernière
dernière
chance.
chance.
Ouais.
Donc, bah, qui oppose justement Bruno à Mohamed. Le thème, c'est agrumes. Et alors là, bah, on a d'un côté, on a un peu le schéma classique. On a le candidat qui applique la recette Ludovic, à savoir décliner un maximum et faire un étage de technique, et un maximum de texture, un maximum de cuisson et de traitement sur le produit, mais uniquement sur le produit. Et on a toujours un candidat ou une candidate qui va ramener un autre élément central et qui va essayer de le mettre en valeur avec le produit du thème, ce qui est rarement la stratégie du thème.
D'autant plus risqué quand tu es en un contrat en fait, hein.
Voilà.
Puisqu'ils étaient deux.
Et donc Mohamed, lui, qui fait un dessert donc à base de crème au citron, gel yuzu, timut, amaretto, clémentine rôtie, amandes caramélisées. Ça a l'air très bon. Hein. Il n'y a pas à dire. Et puis là,
Oh,
t'es
mais c'est
complètement dans le thème.
un dessert. Ouais, non, mais un dessert dans le thème, classique, très bon, bien en ligne, bien présenté. Moi,
Voilà.
c'est un très très bon plat. Hein, et je
Stratégiquement, il a
pense
fait
que
les bons choix. C'était.
stratégiquement, il a fait les bons choix. À un moment donné, il a dit, je vais aller dans la, je vais aller à fond dans l'acide. Bon, a priori, à la dégustation, ça c'est pas. Enfin, il n'y a pas eu de débordement d'acide plus que ça, mais. Concrètement, il a passé le plat à la présentation, à la dégustation, sans souci, quoi.
Ouais, sans aucun problème.
Et moi j'étais plutôt. Moi, dès que Bruno a fait ce choix, je me suis dit, ah, il y a possible. Enfin, c'est soit crash, soit cash, hein, en gros.
Oui, mais ça m'a rappelé un petit peu le pain perdu de Sarah au milieu de sa salade.
Ouais, c'est vrai.
Sauf que pour lui, ça a pas marché. Parce
Ça
que.
n'a pas marché
Parce
parce
que.
que la doc, c'était pas le meilleur choix de poisson, j'ai envie de dire.
Bah, y a ça, mais du côté de Sarah, on l'avait vu, le pain perdu, bah, t'es un peu dans l'univers de la salade où la salade, c'est un produit, mais c'est également un type de préparation qui peut avoir plein de formes, et les croûtons dans la salade, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Par contre, là, le thème, c'était l'agrumes, et agrumes, c'est pas équivoque, y a pas un plat qui s'appelle l'agrumes. L'agrumes, c'est un type de produit.
Ouais, alors. Autant Sarah, je pense que les gens pouvaient raccrocher dans le thème le fait qu'il y ait du pain dans la
Voilà.
salade. Et puis après, on est dans des cultures françaises où on mange soit du pain dans la salade, soit de la salade avec à côté du pain, dans tous les cas. Là, effectivement, on était moins dans un truc. Là où je pense que Bruno il a pris un risque, non, il a pris un risque mesuré, c'était de faire un plat et pas un dessert. Ça, c'était intéressant.
C'est vrai.
Je pense que là où il a fait une erreur, c'est le choix du haddock.
D'accord. Et t'aurais choisi quel poisson, toi?
Moi, j'aurais choisi un poisson justement beaucoup plus terne en goût pour accompagner. C'est-à-dire que,
Ah oui.
clairement, toi, quand tu manges du poisson, enfin, en tout cas, moi, quand je mange du poisson, avoir un petit trait de citron et une petite sauce acide sur du poisson, ça ne dérange personne, tu vois. Et si tu prends. Du cabillaud ou de la dorade ou des trucs comme ça. Tu vois, c'est pas des poissons avec des goûts forts.
Oui.
Le haddock, en plus, ben, du fait que ce soit un poisson, il est fumé le haddock.
Ouais.
Tu vois, tu manges pas du haddock frais en général. Tu manges du
Ouais.
haddock fumé. Donc, tu rapportes un goût fumé à un goût d'agrumes. Donc, le problème, c'est que le thème, c'était l'agrumes. Et je pense que c'est ça qui l'a fait perdre. C'est pas le fait de faire un plat, c'est que s'il avait fait du cabillaud avec de l'agrumes. Il aurait peut-être pu s'en sortir. Là, le problème, c'est qu'il devait compenser la note très très fumée du haddock avec de l'agrume.
Mais est-ce qu'il a très bien réussi, hein? Là, pour remettre l'église au milieu du village,
Du village.
du fromage ou de ce que vous voulez, les deux plats étaient très bons et très réussis. Et là,
Ah non, mais pas de problème, mais je pense
le
qu'il était
problème,
moins dans le
c'était.
thème
Voilà,
que Mohamed, quoi, je
c'est
pense.
juste
Voilà.
l'écart du thème. Donc, à qualité égale de plat, bah, c'est celui qui est le plus dans le thème qui l'emporte. Et là, c'est Mohamed qui va réintégrer le
Qui
concours.
passe.
Au désavantage de Bruno qui quitte donc l'émission. Il a quand même fait un joli parcours parce qu'il est revenu, il est resté assez longtemps après être revenu, donc ça faut le souligner. Et
Ouais.
humainement, c'était un bon candidat qui a l'air très sympathique, qui a toujours eu je sais pas, un comportement très fair-play. C'était un bon
Oui,
candidat.
non, non, clairement, c'est pas c'était Sa personnalité n'était peut-être pas faite pour la télé, mais clairement c'était un candidat à la fois solide, expérimenté, vers lequel j'irais vraiment avec plaisir dans son resto quand il l'ouvrira.
Mmh.
Et après, effectivement, il est dans une forme de classicisme aujourd'hui. C'est pas le candidat, c'est pas un candidat spécifique Top Chef, tu vois. Là, tu commences à voir des choses qui arrivent dans Top Chef où tu as des types de candidats qui sont plus faits pour Top Chef que d'autres. Bah, est-ce que Bruno, il était fait pour Top Chef? En tout cas, il arrivait très très loin. Hein. Il y a pas de sujet, donc il avait un très très gros niveau. Mais il est pas complètement sorti de son de sa bulle en fait.
Ouais, il n'y a pas eu le moment où il est vraiment rentré dans le concours.
Exactement.
Même
Et
si
donc
techniquement il y est rentré 2 fois.
non mais il est rentré dans le concours, mais est-ce qu'il était je veux dire, je pense qu'il a eu les bonnes occasions, par exemple, de ne pas se faire éliminer avant Baptiste ou d'autres, mais il était à ce niveau-là, c'est ça que je veux
Ouais,
dire.
non,
C'était
il a sorti des candidats assez impressionnants quand même, ça.
ouais, exactement.
Donc voilà, on y est, carré final. Donc je vous rappelle la composition du carré final. Il y a Sarah, Mathias, Mohamed et Pierre, qu'on va retrouver la semaine prochaine. Je n'ai aucune idée de ce dont le prochain épisode sera composé.
Est-ce que tu veux savoir?
Non, cette fois-ci, je vais garder la surprise.
Enfin, je ne sais pas la composition, mais après, ça reste une demi-finale.
Ça reste une demi-finale.
Donc
Ouais.
tu dois connaître ce qu'il y a en demi-finale,
Non,
comme d'habitude.
c'est le quart de finale.
Oui, pardon, le quart de finale, excuse-moi.
Ah, c'est pas le truc avec les points là?
C'est ça.
Ah, ouais, c'est ça. Ouais. Et alors, ils vont le faire en 2 épisodes, tu penses?
On verra.
C'est ce qu'ils avaient
La
fait dans
dernière
le.
fois, il l'avait fait en 2 épisodes. Ouais.
Ouais. Voilà, donc bah, on va voir ce que ça donne. Si t'as envie de faire des pronostics, c'est le moment, tu peux y aller.
Bah moi, c'est le pronostic que j'ai depuis le début, hein, c'est-à-dire Mathias et Mohamed. Hein. Non, je plaisante. Non, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que Pierre, Sarah et Mathias sont des favoris pour aller en finale. Là, je parle même pas de demi-finale, je pense que c'est finale. Je pense que Mohamed étant un candidat très technique et qu'on arrive dans des épreuves qui peuvent être techniques, dans les épreuves des points surtout,
Ouais, il
je
peut.
pense qu'il peut se faufiler, en fait. Et du coup, tout est ouvert. Voilà. Donc, j'ai une réponse de Normand.
On salue la Normandie au passage, où j'ai été assez récemment d'ailleurs. C'est un très bon fromage, hein. Bravo les Normands. Écoute, je te dis à la semaine prochaine. Si vous voulez écouter nos autres émissions, il y a What's Next, qui est toujours animé par Ludovic et moi-même, qui donc on décrypte les épisodes de la série de West Wing, épisode par épisode. Et en attendant, je te souhaite une excellente semaine. Je te
Et oui, on se retrouve pour les quarts de finale.
pour les quarts de
On attend ça
finale.
avec impatience, Laurence.
Également, merci de nous avoir écoutés et on se retrouve très bientôt. Mangez des bonnes choses, cuisinez des bonnes choses et amusez-vous. Allez, ciao, à la prochaine.
Ciao!